RTL.
C'est sous le portrait d'Edmond Goncourt que sera attribué lundi prochain le 76e prix Goncourt.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Traditionnellement, cela a lieu le 3e lundi de novembre.
La curiosité est un vilain défaut.
Le vote des Goncourt signifie pour un auteur le succès et la gloire. Tirage moyen du prix, au moins 150 000 exemplaires. On comprend que les éditeurs se battent pour obtenir un tel prix.
Bonjour Pierre Ménard.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes biographe, vous avez plongé dans l'histoire des frères Goncourt, histoire où l'on croise Zola, Flaubert, Proust. Enfin, je ne peux pas faire la liste parce qu'on croise tout ce que la seconde moitié du 19e a connu d'artistes et de grands écrivains. Et surtout, on croise deux personnages, on va le comprendre assez vite, qui sont quand même assez improbables, infréquentables, vachards, méchants, bref.
On les aime déjà.
On va commencer quand même par ce qui leur a donné la postérité, c'est-à-dire ce fameux prix Goncourt, ce fameux prix littéraire. Il s'appelle Edmond et Jules, les deux frères. Quand l'ont-ils créé ? Qui l'a créé, d'ailleurs ?
Alors, si les Goncourt revenaient aujourd'hui, ils seraient un peu surpris, effectivement, d'être connus par ce prix, parce qu'ils s'attendaient à être connus partout, sauf pour ça. C'était vraiment une petite annexe dans leur testament. Et le prix, il a été créé par Edmond Goncourt après la mort de son frère. Ils avaient une vraie obsession de la postérité, surtout Edmond, d'ailleurs. Et donc, il s'est dit qu'il allait créer une académie qui serait chargé de recueillir sa fortune, et cette académie remettrait chaque année un prix.
Alors Edmond Goncourt est mort en 1896, et le premier prix Goncourt est décerné donc en 1903. Il avait laissé une somme d'argent importante pour que son projet voie le jour aussi, en plus de cette volonté d'attribuer, de récompenser les romanciers.
C'est ça, alors Edmond Goncourt et son frère Jules ne se sont jamais mariés. Ils détestaient les femmes, ils les appelaient des alambics à urine et à merde. Enfin, entre autres, gracieuseté.
Ah, pour draguer, ça marche moins bien, c'est vrai.
Ils sont restés célibataires, je crois.
Ils sont restés célibataires
en même temps, c'est logique.
Ils avaient quand même une maîtresse qui partageait, ils avaient le même appartement, la même maîtresse.
Ah oui ?
Quand je vous disais que c'était deux vieux personnages, on y est tout de suite.
Pas forcément d'enfants non plus, ils les détestaient aussi.
Ah, pas forcément, c'est ça ?
Non, pas du tout.
Pas d'officiel, ça c'est sûr.
Pas du tout, non, ils disaient les enfants sont comme la crème, les plus fouettés sont les meilleurs. Donc, pas d'enfants non plus.
Horrible.
Et donc,
c'est drôle et horrible, quoi.
À l'hiver de sa vie, Edmond Goncourt est veuf, puisque quand il a perdu son frère, il considérait qu'il était veuf, n'ayant pas été marié. Et il avait une assez jolie fortune, ce serait l'équivalent de 5 millions d'euros aujourd'hui. Ouais. Donc il se disait, qu'est-ce que je vais en faire ? Alors il était très grincheux, il critiquait tout le monde tout le temps. Mais il y avait une chose qu'il reconnaissait, c'est qu'il avait eu de la chance d'hériter de cette fortune, qui lui avait permis de se consacrer à ses livres, en fait, sans avoir besoin de travailler. Et donc il s'est dit, plutôt que de léguer à des enfants que je n'ai pas ou à des neveux que je n'aime pas, je vais la léguer à des écrivains.
Je n'aimerais pas, peut-être pas.
Alors oui, il les critiquait tous, évidemment. Mais il s'est dit qu'il allait créer une académie, effectivement, à qui il léguerait sa fortune, donc ses 5 millions d'euros, et qui recevrait chaque année une rente de 6 000 francs. Ça fait 25 000 euros à peu près d'aujourd'hui, et qui leur permettrait de pouvoir travailler sans avoir besoin de... Enfin, se consacrer à leurs livres sans avoir besoin de travailler.
Mais Pierre Ménard, est-ce que les frères Goncourt, deux Goncourt d'ailleurs, on va expliquer qu'ils étaient nobles, une petite noblesse. Est-ce que les frères Goncourt, et notamment Edmond, créent ce prix pour concurrencer l'Académie française ? Est-ce qu'ils avaient une dent ? Parce qu'on a bien compris qu'ils étaient vachards. Est-ce qu'ils avaient une dent contre l'Académie française ?
Alors oui, ils avaient une dent assez virulente contre l'Académie française, comme contre à peu près tout d'ailleurs. Mais l'Académie française avait plusieurs torts. Le premier, c'était de ne pas leur avoir donné de prix. Donc ils avaient candidaté à un certain nombre de prix de l'Académie française quand ils étaient jeunes. Ouais. Ils ne les avaient pas eus. Et donc ils faisaient énormément de piques contre l'Académie française. Ils disaient par exemple, en voyant que Balzac n'avait pas été admis et que Victor Hugo l'avait été, il disait Balzac aurait mérité de vivre 10 ans de plus et Victor Hugo 10 ans de moins. Toujours ces petites piques, et puis surtout pour eux, l'Académie c'était un ramassis de vieux débris, de personnes qui étaient complètement hors du temps, et ce qu'il fallait c'était récompenser la jeunesse. Et donc de ce point de vue là l'Académie est en fait assez ambitieuse, parce que l'Académie Goncourt, puisque dans ses statuts il met qu'elle recevra donc des jeunes écrivains plutôt que de couronner des vieux, qu'elle leur permettra de travailler librement toute leur vie. Et puis donc, il en interdit l'accès à toutes les catégories qui sont nuisibles à la société. Donc il y a les grands seigneurs, les hommes politiques, les poètes et les fonctionnaires interdits d'y entrer.
Bon, c'est important maintenant de comprendre, Pierre Ménard, pourquoi les frères Goncourt étaient aussi méchants. Vous publiez d'ailleurs Les Infréquentables Frères Goncourt, c'est aux éditions Talendier. De quel milieu ils sont issus ?
Alors, c'est peut-être qu'ils n'aimeraient pas beaucoup qu'on parle de leur milieu, parce qu'ils ont toujours des formules très dures. Par exemple, sur l'enfance, ils disent « l'homme pisse l'enfant et la femme le chie ». C'est leur vision de l'enfance.
Ils ont une langue fleurie. Hein.
Ils ont toujours une langue très fleurie. C'est eux qui ont inventé le mot scatologique, d'ailleurs, et on comprend pourquoi. Mmh. Et en fait, ils viennent d'une famille qui est notable. Donc pas noble, mais plutôt notable, c'est de la bourgeoisie de province.
Mais alors pourquoi on les appelle de Goncourt ?
Alors ils avaient, 3 ans avant la Révolution en fait, leur arrière-grand-père a acheté une terre qui s'appelait la terre de Goncourt, et donc ils ont repris le nom.
D'accord.
Mais donc ils avaient 150 hectares de terre, quelques actions, et ça leur permettait de vivre convenablement.
Alors ils deviennent tous les deux, Edmond et Jules de Goncourt, écrivains, avec une méthode d'écriture un petit peu particulière, laquelle Pierre Ménard ?
Oui, alors ils se répartissent le travail, donc quand ils écrivent un chapitre ou un acte dans leur... pièce de théâtre, ils décident chacun du thème du chapitre, ils s'enferment chacun dans une pièce, et puis ensuite ils se rassemblent, ils mettent en commun les bonnes idées, parfois les mauvaises aussi parce qu'il y a beaucoup de choses assez désagréables à lire dans leurs livres, et puis après ça, Jules, qui était le plus poète des deux, et il allait par exemple dans les parcs publics pour écouter les enfants parler, pour retenir un peu la musique de leurs paroles, retravaillait la phrase, et alors là ça a donné ce qu'on appelle le style artiste, qui est en partie ce pourquoi ils sont passés à la postérité.
Ils inventaient des mots, c'est ça ?
Exactement. Donc ils avaient une façon d'écrire qui est extrêmement précieuse. Donc ils inventaient énormément de mots, ils en prenaient dans des vieux dictionnaires. Ils ont inventé à peu près 800 mots. Et c'était cocoteux, catastropheux. Par exemple, ils voient une feuille qui tombe d'un arbre, ils ne vont pas parler de la chute de la feuille, mais du chutement. Ça va être le pardonnement, l'accumulement. Une femme qui est triste, elle est en désespérance.
C'est joli, il y a de la poésie.
Il y a de la poésie, mais c'est parfois assez lourd. André Gide disait par exemple... Je lis les frères Goncourt pour apprendre comment il ne faut pas écrire. Et puis Anatole France disait si j'ai l'ambition. Pardon. Oui. Anatole France disait qu'ils ont torturé la phrase, fatigué les mots. Mais effectivement, malgré toutes ces horreurs, il y a quelques belles trouvailles qu'ils ont faites.
Bon, par exemple, des mots qui sont restés aujourd'hui.
Des mots qui sont restés. Bon, il y en a qui ne sont pas restés mais qui sont beaux. Par exemple,
scatologie. Bon, ça c'est pas forcément beau, mais bon, ça a du sens et on l'utilise.
Réécriture, c'est eux. Américanisation, c'est eux. Et le concept aussi. Ouais. Dès le milieu du 19e siècle, ils pensent que l'Amérique va avoir une très forte influence sur la France et que tout le monde va s'américaniser petit à petit. Mmh. Et scatologique et talentueux, par exemple, c'est aussi eux qui l'ont inventé.
Ben voilà.
RTL. Dans l'esprit d'Edmond Goncourt, il voulait mettre à l'abri des travaux subalternes les 10 écrivains qu'il considérait comme les meilleurs écrivains en prose de son époque.
La curiosité est un vilain défaut.
Il a eu cette merveilleuse idée publicitaire du prix Goncourt.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Ce prix Goncourt inventé par les frères Goncourt, qu'on appelle les infréquentables, c'est le thème de notre curiosité du jour sur RTL et aussi le titre du livre de notre invité, le biographe Pierre Ménard. C'était d'abominables mondains qui critiquaient tout le monde. Ils écrivaient beaucoup, ils rêvaient d'être romanciers, ils inventaient des mots, donc il y a du bon et du moins bon. Mais on se demande à quoi ils pouvaient bien ressembler ces deux-là. Moi, j'imagine les Dupont, un peu les frères Dupont, vous voyez.
Oui et non. En fait, ils sont assez, effectivement, très, très 19e et très dissemblables. Il y en a un qui est assez costaud, assez massif, c'est Edmond, qui est le plus âgé. Ouais. Et puis, il y a son petit frère, qui a 8 ans de moins, que pendant longtemps, on prend pour une femme. D'ailleurs, il est un peu assez frêle, le teint très poupin. Et puis après, il finit par avoir une petite moustache. Et donc, ils ne se ressemblent pas du tout. Et en même temps, ils passent leur temps à faire, malgré leurs différences physiques et leurs différences d'âge, à se faire passer pour des jumeaux.
Mais alors, vraiment, c'est troublant, Pierre Ménard, parce qu'il parle vraiment d'une sorte de télépathie entre jumeaux ils racontent leur relation aux autres.
C'est ça, exactement. Donc, ils racontent que, par exemple, dans une pièce d'un château, il y a Edmond qui raconte une anecdote et une histoire drôle, et que dans l'autre, il y a Jules qui rit sans entendre l'histoire, mais il sait qu'Edmond est en train de la raconter.
Ils écrivent leur légende, un peu.
Exactement, où ils passent devant un chou et ils disent on a tous les deux eu envie de faire pipi sur le même chou. Enfin, ils essaient de forger cette légende un peu particulière, comme ça, alors avec des moyens un peu bizarres.
Incroyable.
Mais ce qui est drôle, c'est que malgré ces différences-là, les gens qu'ils ont rencontrés, comme Théophile Gautier, disent qu'effectivement, les prenaient pour des siamois.
Parce qu'ils avaient fini par créer une ressemblance. C'est quoi, ça. C'est ça. Et donc, ils sont infréquentables. Et d'ailleurs, le mot, vous ne l'avez pas choisi par hasard comme titre de votre livre, parce qu'ils sont mondains, ils fréquentent beaucoup.
Oui, ils connaissent.
Et qui sont leurs amis ? Je mets plein de guillemets, amis, parce que vu comment vous les avez décrits, je ne sais pas s'ils en ont vraiment.
Vous faites bien, parce qu'effectivement, ils ont beaucoup d'amis avec beaucoup de guillemets autour. Donc, énormément de gens qu'ils rencontrent. Ils connaissent Baudelaire, Renan, Barrès, Flaubert, Zola, plus tard Alphonse Daudet. Donc, ils connaissent vraiment tout le monde dans la ville littéraire, dont la vie mondaine aussi, ils fréquentent les Rothschild, etc. Mais ils peuvent pas s'empêcher de dire des vacheries dès qu'ils ont serré la main et que les autres sont partis. Toc, les vacheries, par exemple, Baudelaire, il l'appelle le Saint-Vincent de Paul des croûtes retrouvées, une mouche amère dans Fédard. Pour Renan, une tête de veau qui a des rougeurs, des callosités de fesses de singe, tenant du porc et de l'éléphant. Il compare Georges Sand à une grosse vache aussi, et il pense que quand elle met des robes, c'est pour aller violer Flaubert. Ou il raconte des histoires sur Maurice Barrès, par exemple, qui vient de se marier et puis qui a toujours sa maîtresse à côté. Et pour verser de l'argent discrètement à sa maîtresse, il lui raconte qu'à chaque fois qu'il publie dans le Figaro, il doit verser 500 francs. Et donc sa femme dit encore 1000 francs d'articles dans le Figaro ce mois-ci, mais bon, c'est pour la bonne cause.
Mais, c'est dingue, Pierre Ménard. Mais les frères Goncourt, donc il y a ce qu'ils disent là, on les imagine dans un salon, dans une soirée, ils viennent de serrer la main de quelqu'un et puis ils balancent sur lui juste après. Mais il y a ce qu'ils écrivent dans un journal. Et là, ça devient assez fascinant parce que ce journal, d'abord, est-ce qu'ils l'ont publié ou est-ce que c'était une espèce de bombe à retardement pour le tout Paris littéraire et artistique ?
Alors, pendant longtemps, c'était un projet secret, c'était une vraie bombe à retardement. Mmh. En fait, leur projet, c'était de pouvoir montrer, ils avaient commencé par être historiens, donc ils avaient écrit des livres sur la France au XVIIIe siècle, mmh. et se rendaient compte qu'à partir des notes intimes, on pouvait vraiment connaître une époque. Ils disaient qu'une époque, un siècle dont on n'a pas, par exemple, un menu de restaurant, on ne peut pas savoir ce que c'est.
C'est
et donc leur projet, c'est de faire la même chose pour le XIXe siècle. Donc dans leur journal, au départ, ils notent un peu tout. Ils notent quand ils ont mal à la tête, quand ils ont mal aux dents, la migraine, qu'ils n'ont pas dormi la nuit. Mmh. Et puis surtout, leur rencontre. Et effectivement, c'est là que ça devient intéressant. Comme ils ont connu absolument tout le monde, ils disent qu'ils veulent montrer l'humanité comme elle se montre, c'est-à-dire en robe de chambre, donc ils vont montrer tous les petits côtés un peu mesquins de tout le monde.
Et ils ont accusé, par exemple, Émile Zola, le grand Émile Zola, ils l'ont accusé de plagiat. Alors ça, j'étais très étonnée. Ça vient d'où, cette histoire ?
Alors, c'est une longue histoire, en fait. Ça commence par un de leurs romans. Je vais la raconter vite. Ça commence par un de leurs romans qui s'appelle Germinie la Certeux, qui est l'histoire de leur bonne, en fait. Ils avaient une bonne qui, de quand ils étaient petits à quand ils avaient 40 ans, s'occupait d'eux. Donc, tous les soirs, même quand ils avaient 40 ans, elle allait les border le soir, leur faire un bisou sur le front, ce qui ne leur empêchait pas d'écrire des horreurs sur elle.
Ouais.
Et quand elle est morte, ils se sont rendus compte qu'en fait, elle avait une vie cachée, elle avait plein d'amants, elle était alcoolique, elle avait des grossesses dissimulées.
Ouais.
Et ils décident d'en faire un livre, qui est assez sordide d'ailleurs. Et ils reçoivent un jour une lettre d'un petit jeune homme qui a 25 ans, qui s'appelle Zola, et qui leur dit « Votre roman est fantastique, vous avez absolument tout compris. » Et c'est le point de départ du naturalisme.
Et donc, Zola va s'inspirer des frères Goncourt,
exactement.
En quelque sorte.
Donc, au départ, c'est vraiment un élève admiratif. Alors, Zola vient les voir, il lui trouve une tête de normalien crevé, à la fois rablé et chétif. Toujours cette gentillesse.
Toujours, voilà. Toujours ces bonnes personnes, les frères Goncourt.
Exactement. Et puis, petit à petit, Zola commence à faire parler de lui. Alors, il écrit moins d'articles sur les Goncourt. Il commence à vendre ses livres à quelques milliers, dizaines de milliers, puis centaines de milliers d'exemplaires.
Alors que les Goncourt, j'ouvre une parenthèse, ne vendent pas de livres. Ils sont quelques dizaines, quelques
centaines. Leur premier livre, c'est 64 exemplaires. Voilà. Et puis les autres, c'est quelques centaines
donc
ou quelques
jaloux.
Milliers.
Ils sont
extrêmement jaloux.
Jaloux.
Et puis surtout, il y a énormément de similitudes. Par exemple, les Goncourt font un grand roman sur la bourgeoisie. Ça devient les Rougon-Macquart chez Zola. Sur la pauvreté, c'était Germinie la Certeux chez eux. Mmh. Zola sort l'Assommoir. Sur la peinture, les Goncourt font Manette Salomon. Zola sort l'œuvre.
Mais c'est vraiment du plagiat ou
c'est pas du plagiat. En revanche, les thèmes se ressemblent beaucoup.
Ouais.
Et après, évidemment, Edmond Goncourt devient complètement paranoïaque.
Ouais.
Et donc, il va chez Zola, il voit qu'il y a un de ses livres qui est ouvert sur son bureau. Donc, c'est sûr qu'on va le copier. Il y a un moment dans un autre roman, deux personnages qui terminent leur tirade par le mot dodo. Donc, évidemment, Zola l'a plagié.
Ah ouais.
Et donc, il s'en remettra pas.
Et ils vont se venger parce que dans ce journal dont on parlait, qui finira par être publié, mais on va dire dans une version un peu édulcorée, ils balancent notamment sur la sexualité de Zola. Qu'est-ce qu'ils disent ?
Ah oui, c'est pas forcément la pire. Alors, je sais pas si c'est très racontable, mais il raconte qu'il passe par exemple une semaine avec une femme dans son lit sans sortir du lit, puis qu'à la fin il n'arrive même plus à marcher tellement il a fait des choses avec elle.
Ouais.
Il raconte que.
Ça, c'est racontable par rapport à tout ce qu'il y a dans le journal.
Voilà,
c'est racontable.
C'est plus
ça.
Soft, c'est ça ? Ouais.
Exactement.
Bien, bien pire. Mais bon, voilà.
Et Flaubert aussi.
Flaubert. Alors Flaubert, il le trouve très très drôle, complètement absurde. Il l'appelle le bœuf, le fabricateur de bouquins un mot par heure. Alors il déteste ses livres, il les trouve extrêmement mauvais. Mais en tant que personne, il les fait beaucoup rire. Par exemple, Flaubert raconte qu'il va dans des maisons de passe avec ses amis. Alors il y va avec un immense cigare. Et il choisit la femme la plus moche. Et il fait ce qu'il a à faire devant tout le monde tout en gardant son cigare à ses lèvres.
Waouh.
Et Jules de Goncourt.
Sidonie Bonnec.
Comme sur un beau lac où le feuillage tremble.
Thomas Hugues.
Du cygne dans l'azur au loin vogue ensemble.
Bienvenue sur RTL, les curieux.
De même, avec amour, frère, vos deux pensées, marge d'un pas égal, l'une à l'autre enlacées.
Extrait d'un poème signé Théodore de Banville, un contemporain des frères Goncourt, Edmond et Jules, dont on raconte l'histoire avec le biographe Pierre Ménard. Bon, de leur
peut-être
vie,
le
on
seul
a...
qui aimait d'ailleurs les frères Goncourt.
Que,
hein,
en tout cas, cette partie du poème est sympa. On ne sait pas comment ça se termine. Parce que vu le palmarès des frangins, je ne suis pas sûr qu'ils aient eu de vrais amis. On a retenu évidemment des frères Goncourt le prix littéraire, création posthume, on l'a expliqué par testament. Mais on ne connaît pas grand-chose de leur vie. Enfin si, un peu plus grâce à vous, Pierre Ménard. Donc je fais un petit récapitulatif pour ceux qui viennent d'arriver sur RTL. Edmond et Jules de Goncourt, ils avaient récupéré la particule de leur grand-père. Ils sont nés en 1822-1830. Ils ont vécu à Paris dans la seconde moitié du 19e siècle. Ils étaient écrivains ratés. Et ils tenaient un journal qui terrorisait les artistes de leur époque. Écrivains ratés, ils se faisaient attaquer par la critique à chaque fois qu'ils sortaient un livre. Comment ça se passait ?
Écrivains ratés, c'est un peu violent.
Je pense me venge pour tous ceux voilà, qui ont attaqué.
Non, il y a du bon et du moins bon. Alors la critique, c'est particulier sur leurs livres d'histoire, il y a eu plutôt des bonnes critiques, mais les livres se sont assez peu vendus. En revanche, après sur leurs romans, effectivement, on les a accusés de tout et n'importe quoi. Barbet d'Aurevilly, par exemple, les appelait les sergents Bertrand de la littérature. Alors pour ceux qui ont oublié, le sergent Bertrand, c'était un sergent qui allait au cimetière du Montparnasse, qui déterrait les corps et qui les violait. Donc c'était pas forcément
c'était pas un compliment.
Hein, c'était pas forcément un compliment. On les accusait de fouiller les ordures. Enfin, il y avait toujours des choses assez violentes contre eux et même leurs amis s'y mettaient. La princesse Mathilde, par exemple, avait lu un de leurs livres.
La princesse Mathilde, faut rappeler qui
c'était. La princesse Mathilde, qui était la cousine de Napoléon III et qui tenait un salon littéraire assez réputé, avait lu un de leurs livres et leur a dit qu'il l'avait fait vomir. Voilà, donc vraiment, de tous les côtés, ils s'en prenaient beaucoup.
Alors, ils ont écrit des livres d'histoire, des romans, des pièces de théâtre aussi. Et l'une de ces pièces, c'est Henriette Maréchal. Elle a fait grand bruit à la Comédie Française. Pourquoi, Pierre Ménard ?
Alors, ils rêvaient absolument de s'attaquer au théâtre. Ils se sont vraiment attaqués à tout et à tout le monde. Et donc, ils ont écrit une demi-douzaine de pièces qui ont à chaque fois été refusées très violemment. On leur disait vraiment, c'est pas pour nous, c'est très mauvais. Allez voir ailleurs, s'il vous plaît.
Et on a compris pourquoi ils étaient méchants, franchement. C'est des frustrés, c'est tout, les frères de Goncourt.
Et puis, un jour, par miracle, grâce justement en partie à cette princesse Mathilde, une de leurs pièces qui s'appelle Henriette Maréchal est acceptée. Alors là, ils exultent, ils pensent que Molière sera bien vite oublié, qu'on parlera plus que des Goncourt. Et effectivement, le jour de la première, alors il y a une foule qui arrive devant le théâtre à partir de 2h de l'après-midi. Il y a plein d'étudiants qui font la queue. On se presse pour entrer. Une foule énorme, donc ils sont ravis. Et puis, la scène commence. La foule ne se tait pas, il y a même de plus en plus de bruit. Il y a quelqu'un qui débarque sur la scène, un des comédiens, et qui commence à insulter le public, c'est dans leur pièce. Et alors les étudiants chantent des chansons scabreuses, ils critiquent l'empereur, l'impératrice, le parterre chante des chansons. Et puis dans les insultes, il y a notamment abonné de la revue des Deux Mondes. Et alors là, les quelques bourgeois qui étaient là prennent l'insulte personnellement et se mettent à rejoindre le tohu-bohu. Et donc ça fait un énorme scandale, c'est le plus gros scandale, paraît-il, de la Comédie Française. Ça se poursuit ensuite pendant 5 jours, et puis l'empereur fait arrêter la pièce.
Parce que le public, incroyable, en fait, se vengeait un peu
l'empereur,
en fait, parce qu'ils étaient amis avec la princesse, c'est ça ?
Voilà, alors eux ont tenté de faire comme si c'était contre leur art, qu'ils étaient tellement au-dessus des autres, que leur art était tellement génial qu'on cherchait à les faire taire. Et en réalité, c'était un moyen détourné pour les étudiants de manifester leur opposition à l'Empire. En fait, on pensait à tort qu'ils étaient très amis avec le pouvoir, et donc c'était une manière de manifester sans se faire attraper.
Vous publiez, Pierre Ménard, Les Infréquentables Frères Goncourt aux éditions Talendier. On imagine le plaisir que vous avez eu à écrire ce livre, tant votre sujet est quand même assez croustillant. Alors, on les découvre misogynes et antisémites. On va continuer un petit peu sur les femmes. Qu'est-ce qu'ils disaient des femmes sur leur livre
Alors, les femmes, vraiment, ils avaient une relation assez duale avec elles. Il y avait d'un côté la femme du XVIIIe siècle. Alors celle-là, c'était vraiment la sainte, la femme parfaite, quoi qu'elle ait fait d'ailleurs.
Et pourquoi cette femme-là ?
Pourquoi ? Parce qu'elle était drôle, elle était belle, elle était intelligente, elle était cultivée. Enfin, selon eux en tout cas. Donc toutes les femmes du XVIIIe siècle avaient droit à des livres magnifiques.
Et donc les femmes d'avant ?
Les femmes d'avant. En revanche, quand ils croisent une femme en chair et en os, alors là, c'est la panique à bord. Ils ont des phrases, par exemple, qui disent « Les chrétiens sont très reconnaissants à Dieu d'avoir donné au corps de la femme l'odeur qu'il ne donne à la crevette que 11 jours après sa mort. »
Mais quelle horreur !
Voilà, donc toujours des phrases comme ça. Alors de temps en temps, effectivement...
Ça, c'est dans leur journal qu'on lit ça ?
C'est dans leur journal. Ouais. De temps en temps, ils ont besoin de voir une femme quand même. Ils disent qu'ils sont mordus par l'animacule spermatique. C'est leur formule.
Alors dites, mordus par ?
L'animacule spermatique.
Bref, d'accord. Bon, voilà.
Donc là, ils ont besoin de voir une femme.
Ils consomment.
Il y a une phrase qui ressemble beaucoup à celle de Flaubert qui était « L'amour est comme un besoin de pisser. Qu'on l'épanche dans un vase d'or ou dans un pot d'argile, il faut que ça sorte. Le hasard seul nous procure les récipients. »
Pardon aux auditeurs qui nous rejoignent, tout ça, c'est pas nous.
C'est une citation.
C'est une citation.
Mais après, c'est un bonheur de méchanceté de dire que des humains peuvent imaginer écrire des choses pareilles, c'est inouï.
Et donc la femme, oui, c'est un être qui est vraiment sale, sournois, un peu bête aussi. Alors ils disent qu'on lui parle comme on parle à un chien ou à un chat, en sachant qu'elle ne comprendra rien. Et si on prend un peu de recul pour essayer de comprendre pourquoi ils détestaient autant les femmes, on trouve en fait une petite réponse, une indication dans leur roman. Parce que plusieurs de leurs romans sont toujours sur le même thème, c'est l'artiste, donc ça peut être un écrivain, ça peut être un peintre, qui est séduit par une femme, et la femme le détourne de son art. En fait, elle a des besoins assez bourgeois, c'est-à-dire de la sécurité financière, du temps, et donc elle va arracher l'artiste à son art. Et c'est l'explication qu'il donne, comme quoi ils ne se sont jamais mariés.
Ils étaient antisémites aussi. Alors l'époque l'était certainement, mais est-ce qu'ils l'étaient plus que l'époque ?
Oui, ils l'étaient particulièrement, c'était vraiment extrêmement virulent. L'époque en France était surtout antisémite à partir des années 1880. À ce moment-là, on a toute une vague d'émigration de juifs qui arrivent d'Europe de l'Est où ils sont persécutés. On a des grands scandales financiers avec de la corruption où des juifs sont accusés d'être derrière tout ça. On a une faillite d'une grande banque catholique alors que les banques juives sont florissantes. Donc on a tout un climat effectivement extrêmement antisémite avant l'affaire Dreyfus.
Eux,
ça a commencé dès leurs premiers écrits, en fait, ils sont complètement antisémites et ça atteint des niveaux où, en fait, on sait même pas s'ils croient à ce qu'ils disent. Par exemple, ils racontent qu'ils sont dans un restaurant, ils entendent des enfants de 8 ans qui parlent, et évidemment, c'est des enfants juifs, donc ils parlent de la bourse. Ils racontent qu'à Bordeaux, par exemple, dans les écoles juives, on donne pas de prix de mathématiques parce qu'ils le méritent tous. Mmh. Et donc, en fait, plus le temps passe, plus ils essaient de rationaliser cet antisémitisme.
Et on comprend pourquoi. Merci beaucoup, Pierre Ménard, pardon de vous interrompre, mais le temps file. On comprend pourquoi il mérite ce qualificatif, les infréquentables frères Goncourt. Votre livre est publié aux éditions Talendier. Il est passionnant, il est croustillant.
Il n'y a pas d'autres choses à lire dedans encore.
Il y a énormément d'autres anecdotes.
Voilà, merci, exactement. À très bientôt.
Merci.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.